L'entrevue.
L'entrevue ?
L'entrevue ?
L'entre-quoi ?
L'entrevue. L'émission d'actualité locale sur Radio La.
3, 2, 1, 0.
Salut toutes et tous, vous êtes en direct sur Radio La, web radio basée à Dieulfi, en Drôme provençal. Marin du Couédic à la technique, merci Marin. Et Gérard Daben à l'interview. Nous recevons aujourd'hui dans Entrevue Dominique Amoros avec Daniel Amoros avec Raymond Barache, habitant de Dieulfi. Raymond Barache, habitant de Dieulfi. Vous avez créé la troisième AMEP, pardon, on fera la différence tout à l'heure, AMEP en France et la première dans la Drôme. Et le deuxième invité, c'est Philippe Ménard de l'association Passerelle. Il est en lien, vous êtes en lien, Philippe, direct avec une famille bénéficiaire des activités de l'AMEP. Bienvenue aux auditrices et auditeurs fidèles des radios libres sur radiola.media. Dans cet entretien, nous allons parler d'énergie partagée. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être venus. On va commencer par vous, monsieur Amoros. Quel est le sens de ces trois lettres AMEP?
Alors A, c'est association. M, c'est mutualisation. E, c'est énergie. Et P, c'est proximité. Association pour la mutualisation d'une énergie de proximité.
D'accord. Et j'ai lu quelque part que vous avez quatre valeurs fondamentales.
Exact.
Vous appelez ça les legs.
Les legs. Alors, ces quatre valeurs fondamentales reposent sur l'idée du partage, l'idée du don gratuit, donc cette notion de gratuité, l'idée aussi de la sobriété, c'est-à-dire de réfléchir à la façon dont on consomme l'énergie, sans imposer de code, mais c'est dans un échange que les choses se passent, et l'idée aussi c'est la proximité.
D'accord, c'est-à-dire c'est ici, ça se passe ici autour de nous quoi.
Voilà.
Hein, ça, on va pas faire des kilomètres. Alors, ça consiste en quoi, votre partage d'énergie, comment ça se passe?
Alors, comment ça se passe? Très très bonne question.
Merci de l'avoir posé, je vous en prie.
Donc, en fait, on s'appuie sur un cadre juridique qui est celui qui a été mis en place en 2021, qui permet à toute personne, qu'elle soit particulier, que soit un particulier, une entreprise, une association, une communauté juridique quelconque, de pouvoir devenir producteur d'énergie et pouvoir échanger cette énergie. Alors deux façons de l'échanger, on la financiarise, on la vend à d'autres, ou dans notre cas, le choix c'est de la donner.
On la donne, voire on la troque, non?
Bah, le troc, ça vient naturellement après.
D'accord.
Hein, vous savez, à partir que les gens se connaissent.
Ça va être une bonne question après, quoi.
Absolument. Okay. Mais je pense que ça vient naturellement. Et d'accord. C'est cette idée de proximité qu'on évoquait.
Hein. D'accord. Alors, cette énergie, vous la produisez comment?
Alors, AMEP, donc, c'est énergie de proximité, c'est toute énergie, quelle qu'elle soit. Dans notre cas, et dans le cas le plus, commun, c'est l'énergie photovoltaïque. Hein. C'est des panneaux qu'on installe sur nos toits ou sur notre sol. D'accord. Mais ça pourrait être des éoliennes, ça pourrait être
une chute d'eau.
On a quelques cas aujourd'hui, bon, on l'évoquera après dans d'autres AMEP, que ces problématiques se posent. Mais l'idée, c'est on produit une énergie, donc déjà on la consomme pour nous-mêmes, c'est l'autoconsommation. Et l'idée, c'est de dire, par exemple, concrètement aujourd'hui, plein de soleil, moi aujourd'hui j'ai beaucoup trop d'énergie. Malgré le fait que j'ai consommé tout ce que je pouvais, il y a trop d'énergie disponible et donc soit on la vend, soit on la donne.
Soit vous la vendez à EDF ou à l'opérateur énergétique classique.
Ou à un particulier. À partir du moment où on s'est constitué en structure d'autoconsommation collective, on a défini un périmètre qui regroupe des producteurs et des consommateurs. Et au sein de cette communauté de producteurs et de consommateurs, l'échange se fait. Alors, il peut se faire via une facturation, ça existe en France déjà, il y a des cas de ce type-là.
C'est-à-dire que si je produis de l'électricité, je peux vous vendre mon surplus directement?
Absolument.
D'accord. Absolument. On n'est pas obligé de passer par l'opérateur énergétique?
Non. Vous n'êtes pas obligé de passer par EDF. Par contre, vous passez par le réseau.
D'accord.
Qui est tenu par Enedis, qui est gestionnaire du réseau. Et par contre, il y a quelques conditions préalable, je dirais, requis, c'est qu'à partir du moment où il y a une communauté, il faut que le lien, il y a un lien, comment dirais-je, d'échange et de données échangées.
Hein, moi, je pense qu'il y a aussi un lien juridique.
Voilà. Et le lien juridique, déjà, c'est l'association qui est constituée, oui. Donc qui elle, a un périmètre donné et qui répond au contexte donné par la loi, donc c'est une autoconsommation collective. Il y a des choses à décrire, c'est assez standard quand même, c'est pas ultra compliqué quand on l'a fait une fois.
D'accord.
Pour la première fois, c'est compliqué. Oui. Après, c'est plus simple.
Oui, mais peut-être que votre réseau peut, on en parlera un peu aussi,
va aider à... Mais c'est le sens de notre réseau.
La mutualisation des savoirs aussi.
Exactement. C'est le sens du réseau. C'est-à-dire qu'on met en commun tout ce qu'on a acquis pour en faire bénéficier, par exemple les statuts, par exemple.
D'accord.
Hein, quelqu'un qui veut créer une AMEP, il n'a pas besoin de scoltiner des pages et des pages de documents juridiques.
D'accord.
On transmet les statuts à partir du moment où les gens rentrent dans le cadre des valeurs qu'on a définies, notamment la notion de gratuité. D'échange marchand.
Quelle est la différence entre votre réseau et une centrale villageoise ?
Alors, c'est très intéressant parce que je fais partie aussi de la centrale villageoise. Pour moi, c'est très, très complémentaire. La centrale villageoise a un rôle indispensable qui est celui de maîtriser sur un territoire de la production d'énergie à grande échelle. Hein? Nous, on travaille... Allez, nous, on est dans le micro, en tant que particulier, la centrale dans le macro. Et surtout, la dimension économique sur un territoire, c'est aujourd'hui, c'est encore plus d'actualité aujourd'hui, c'est de garantir des prix d'accès à l'énergie le plus bas possible pour les gens. Hein, vu que les coûts, et une centrale villageoise permet, à partir du moment où ils ont fait un calcul économique de j'ai investi, j'amortis mes investissements, je génère un prix de vente qui est stable.
Hein, qui sera stable. Le prix de vente, c'est celui qui est fixé par la commission de régulation de l'énergie, c'est ça ?
Ah non, ce sera le prix fixé par l'entreprise qui a investi. L'opérateur
énergétique.
L'opérateur. Donc, dans ce cas, c'est la centrale villageoise.
D'accord.
Donc, l'intérêt, c'est par exemple, concrètement, des entreprises peuvent avoir accès à un coût de l'énergie contrôlé, stable, à bas prix et sans avoir des accélérateurs brutaux sur les coûts, par exemple.
Très bien.
Et ça, c'est fabuleux. Ensuite, nous, notre démarche, c'est de dire, aujourd'hui, il y a tout un chacun, et ça progresse très vite, c'est achète, y compris dans des supermarchés, des kits photovoltaïques. Faut savoir que j'achète un kit photovoltaïque dans mon supermarché, je l'installe chez moi via une prise, je vais générer du surplus électrique gratuitement, qui va transiter vers le réseau EDF, qui lui ne va pas le distribuer gratuitement. Hein, il va le revendre. Donc autant que cette gratuité d'énergie puisse bénéficier une communauté de proximité.
Très
via
bien.
Notre association.
Philippe Ménard, vous êtes administrateur de l'association Passerelle, avec un S,
oui.
à la fin, et vous gérez le lien entre les donateurs, les propriétaires de panneaux photovoltaïques, de producteurs d'électricité, et vous êtes en lien avec des bénéficiaires ou vous en bénéficiez, c'est l'association qui en bénéficie directement. Comment votre lien entre l'AMEP et Passerelle ?
Alors, disons que comme nous logeons des personnes et que nous payons le loyer, on est les titulaires du contrat d'électricité.
Le loyer de qui ?
De la famille dont on s'occupe.
D'une famille
voilà,
accueillie. Quoi.
Voilà, tout à fait. Et donc... on est l'intermédiaire dans ce sens-là parce que c'est nous qui avons l'abonnement, mais ils bénéficient eux directement de cette réduction d'électricité qui est offerte par cette AMEP.
Alors, comment vous êtes rentré en lien avec l'AMEP ?
Eh bien, c'est Daniel qui a eu la gentillesse de venir nous voir pour nous proposer, en tant qu'association justement de solidarité, de profiter, vu que ça cadre avec leur éthique, de profiter de cette
Alors, en fait, quand on inverse le rôle du représentant. C'est-à-dire que je viens vous démarcher pour vous offrir
c'est
de l'électricité.
Ça. C'est ça.
Alors qu'en général, on vient démarcher pour vendre quelque
Quelle
chose.
Quelle générosité, quand même.
C'est quand même assez extraordinaire.
Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que je te tutoie. Hein.
Oui, pas de problème.
C'est intéressant parce que, comme c'est une situation un peu nouvelle, hein, j'ai eu beaucoup de mal à trouver... dans le milieu associatif. Hein. La cible, c'était trouver des associations, trouver dans le milieu associatif des gens qui, spontanément, considèrent qu'il n'y a pas d'arnaque. Hein? Parce que la question que se posait, qui n'était pas posée directement, mais qu'on sentait, c'est mais où est l'arnaque hein?
Qu'est-ce qu'il y a derrière?
Moi, je ne me suis pas posé cette question.
Non, d'accord, mais bon, j'ai quand même démarché pas mal d'associations. Par contre, ce qui est nouveau, mais je comprends, parce qu'il y a une certaine complexité à faire comprendre comment le système fonctionne. Alors, peut-être qu'on a eu des torts de ne pas simplifier à outrance le système. Au début, on a tendance à être très généreux dans l'information et on noie les gens. Donc, moi, maintenant, ce que je dis, c'est assez simple, c'est de dire tout le monde peut être producteur de façon très simple. Donc, je vous ai dit, dans un supermarché, maintenant, on achète un kit. On peut l'installer soi-même si on le veut. On peut le faire installer par un électricien si on veut. Dans tous les cas de figure, il y aura du surplus, jour ensoleillé. En général, on a beaucoup plus de production, de consommation. Et donc, l'idée, c'est qu'on peut très facilement, aujourd'hui, rentrer dans un projet de ce type-là, qui est un projet vertueux. Par contre, on n'est pas obligé de tout donner. C'est ça qu'il faut savoir. Dans nos statuts, nous avons prévu cette situation.
Je voudrais terminer avec Philippe. Quelles sont les familles, comment vous choisissez les familles bénéficiaires ?
Bon, il se trouve qu'on n'a pas des tonnes, on a une famille dont on s'occupe.
Donc le choix est vite fait.
Le choix est vite fait. On avait une autre personne maintenant qui est autonome, donc il est sorti de notre association, on va dire, en direct. Donc du coup, il n'y a que cette famille, mais qu'on a vraiment besoin, donc, parce que vu qu'ils travaillent en CESU, ils ont des petits revenus. Donc ça permet quand même d'avoir des factures d'électricité plus légères.
D'accord. Le don, c'est-à-dire l'économie des bénéficiaires, ça tourne en pourcentage ?
Eh ben, j'aimerais bien le savoir pour le moment, parce que vu qu'on a un prélèvement mensuel, on sera régularisé, je crois, qu'en septembre, et c'est là qu'on verra ce qui a vraiment été consommé via la MEP et ce qui vient du réseau habituel. Quoi.
D'accord. Alors, c'est le réseau habituel, c'est-à-dire le gestionnaire du réseau ou EDF qui fait bonus-malus dans la facture.
C'est ça.
C'est-à-dire que ça doit être extraordinaire de voir une facture EDF avec moins 20 euros, moins
c'est
50
ça.
euros. Ouais,
j'aimerais bien voir ça.
Là, ça doit être assez étonnant. Il y a combien de superficie qui sont abonnés à la MEP.
Alors, c'est la notion de périmètre. Hein. Ouais, les AMEP sont définis par un périmètre de fonctionnement, c'est-à-dire la communauté producteur-consommateur doit répondre à des critères, notamment des critères de proximité, qui sont en fonction de la densité urbaine. Donc, vous imaginez, par exemple, sur Paris, par exemple, ultra-densité urbaine, la périmètre est de 2 km. Sur Montélimar, peut-être aussi de 2 km. Sur Diolfi, nous sommes sur 20 km.
D'accord.
Hein? Donc 20 km, on peut comprendre que, par exemple, quelqu'un qui habite au Tonil, par exemple, hein, oui. Hein, là-haut, là, vers...
Je vois où c'est le Tonil.
Voilà, vous voyez où c'est. Ben, peut être producteur... quelqu'un qui serait consommateur à Poët-Laval, par exemple.
D'accord. C'est pour limiter les déplacements, pour resserrer les liens.
Non, c'est un cadre qui a été défini par les responsables aujourd'hui de ce système d'autoconsommation collective. C'est pour justement générer de la proximité, avant tout, générer des sociétés à l'échelle de territoire. D'accord. C'est surtout ça qui a piloté. Voilà. C'est ça. Et ensuite, le lien, en fait, c'est le lien qui est entre tous les producteurs et les consommateurs, puisqu'il y a une notion comptable de mesure. La mesure est faite via les compteurs Linky.
Oui. Hein? C'est essentiellement. On est obligé d'avoir un compteur Linky. Pour ça.
Voilà. Donc, je sais qu'il y a des opposants au compteur Linky. Moi-même, j'ai pu l'être à un moment donné.
Dans la région, vous croyez ?
Comment ? Non, je ne m'avance pas sur cette région. Mais par contre, voilà, quoi, quand on a un compteur Linky, des fois, on ne l'a pas choisi, il était là, il est en place. On peut l'utiliser pour une bonne cause aussi.
Très bien, ça peut servir aussi à ça. On va faire une petite pause musicale avec Maria Griffiths, Electric Boogie. We'll be right back. De retour sur Radio La avec les, la MEP de Djolfi. Elle a un nom spécifique, la MEP, non ? Ou c'est la MEP de Djolfi ?
Non, non, on s'est appelé AMEP 26.
AMEP 26, d'accord. Il va falloir mettre un S parce qu'il va y avoir, après cette émission, il va y en avoir plusieurs dans la Drôme. Voilà, mais là, on va sectoriser, on va dire, c'est un Drôme provençal. En fin de compte, ce que j'ai compris, c'est que c'était l'appartement lui-même qui est bénéficiaire. C'est-à-dire, comme vous disiez tout à l'heure, avant la pause musicale, c'est le compteur qui compte et pas forcément la personne qui habite dedans.
Absolument, oui. Hein?
Alors, si dans votre logement, je pense que votre logement, il y a un turnover des personnes en fonction de leur... De leur sortie, de leur précarité, hein, ce qui
alors,
peut être...
Oui, pour l'instant, c'est quand même... Depuis bientôt 2 ans, ils sont dans ce logement.
Oui.
Ça ne durera pas forcément parce que le logement, on ne peut pas forcément le garder dans la durée. Donc, de toute façon, ça va changer.
Donné, ça va changer. Ça va s'arrêter.
Mais c'est pas, on n'a pas de lieu qu'on garde éternellement et dans lequel les gens pourraient tourner. Donc, ce n'est pas vraiment comme ça que ça se présente pour le moment. Okay. C'est tout frais, donc c'est vrai qu'on n'a pas encore de recul sur cette histoire. Mais bon, à voir.
OK. Il y a combien d'AMEP en France ?
Alors... Nous étions 3 AMEP en début d'année 2024. Nous étions la 3e hein, créée. Aujourd'hui, il y a 15 AMEP qui fonctionnent. Qui fonctionnent, voilà, 15 AMEP qui fonctionnent quasiment sur tout le territoire français. Hein. Bretagne, notre région sud-est, la région nord, la région autour de Toulouse, Bordeaux. Paris, par exemple, il y a pour l'instant, on n'a pas de contact vraiment autour des AMEP, mais ça viendra. Hein. Oui. Donc, la 15 qui fonctionne, c'est-à-dire qui ont un fonctionnement producteur-consommateur, une trentaine de dossiers en cours hein, d'examen auprès d'Enedis, parce que le processus, c'est Enedis évalue la faisabilité oui, à la fois des producteurs et des consommateurs.
Il faut le feu vert d'Enedis quand même.
Il faut le feu vert d'Enedis. Hein, et elle regarde notamment le périmètre. Il regarde, par exemple, les producteurs, on doit avoir une installation... qui satisfait, qui coche toutes les cases demandées.
Ouais, c'est pour ça que les panneaux achetés au supermarché, il faut faire attention.
Non, au contraire. Ah eux sont complètement, c'est des kits, donc ils répondent aux normes de sécurité.
Ah d'accord, on peut brancher directement.
On branche, ils répondent, ils ont d'emblée des normes. Mais moi, dans mon cas, par exemple, j'ai construit mon installation moi-même, je l'ai installée moi-même. J'ai dû faire valider la conformité électrique de mon installation. On ne peut pas faire n'importe quoi.
Oui, parce hein? que
c'est un coût supplémentaire. Ce qui est aussi normal, hein, y compris pour ses propres assurances, sa propre assurance oui. habitation, par exemple. Donc voilà, donc... Vérifie que le dossier administratif coche toutes les cases. Ensuite, voilà, on a affaire à une grande maison, Enedis, et selon les moments, ça peut aller vite comme aller lentement. Hein. Des fois, on n'a qu'un numéro de téléphone, mais bon, ça devient de plus en plus commun hein, dans tous les services. Hein. On appelle des numéros de téléphone, on répond à
oui,
des
non,
robots.
Oui, non, oui, non.
Donc, l'idée, c'est d'avoir des interrupteurs stabilisés. L'expérience montre que l'année dernière, on mettait 3 mois pour monter une AMEP. Aujourd'hui, c'est un peu plus lent. Hein, pourquoi, on ne le sait pas encore. Peut-être qu'il y a une volonté de remettre à plat les projets d'autoconsommation collective pour les démultiplier, parce qu'il y a vraiment un choix qui a été fait de développer cette forme de production de proximité. Un choix fait à haut niveau. Par contre, en face, il faut qu'il y ait des moyens, et je pense que les moyens sont en cours, j'espère, de mise en place.
Hein. Alors, est-ce que pour un bénéficiaire, comme la passerelle, est-ce que c'est uniquement vos panneaux qui alimentent ou c'est le panneau du groupe?
C'est le panneau du groupe.
C'est le panneau du groupe.
Actuellement, nous sommes deux producteurs.
Hein. Il peut y avoir 10 producteurs, mais c'est le groupe qui produit et qui va être distribué à 1, 2, 3 bénéficiaires, c'est ça?
Exactement, exactement. C'est une distribution en temps réel, c'est-à-dire qu'on est 2, 3, 4 producteurs. Instantanément, il y a du surplus chez les uns, chez les autres, de valeurs différentes. Et ensuite, en face, il y a des consommateurs qui, en temps réel, vont... mettre en route une machine, travailler sur leur ordinateur, etc., etc. Par contre, c'est cette notion de temps réel, c'est-à-dire que ça se passe en journée. Quand il y a du soleil le soir, moi, je ne consomme. Si j'ai besoin d'énergie, je vais la consommer sur le réseau, parce que à moins d'avoir une batterie, ce qui n'est pas le cas, et par idem chez le consommateur. Le soir, il paiera son énergie au tarif EDF. Par contre, en journée, il fait beau, il faut y aller. Lancer les machines à laver, lancer tout ce qui est énergivore. Et c'est un peu ça l'idée de ce que j'appelais la notion de sobriété et aussi d'éducation, je dirais, autour de comment je consomme, à quel moment et à quel niveau. C'est un peu ça, c'est aussi notre optique. Alors, on n'a pas encore développé tous les outils pour faire ça. Pour l'instant, on est en étape, je dirais, avec passerelle un peu expérimentale, mais ça va dans le sens, on va dans ce sens-là.
Oui, c'est-à-dire qu'il faut s'approprier son installation. Hein, c'est
exactement.
Ça, c'est comme un chauffe-eau solaire, si on laisse fonctionner...
Exactement. Par exemple, vous parlez de chauffe-eau solaire, par exemple. C'est un des postes énergétiques les plus importants quasiment dans les maisons, c'est chauffer de l'eau. L'idée, c'est quand on a un compteur, par exemple, heure creuse, heure pleine, heure creuse, c'est la nuit, mais si on bénéficie de dons, bah, il faut mettre son chauffe-eau, son eau chaude sur la journée, avant tout, sur la journée. Hein? Et parce que ça sera de l'énergie gratuite qui arrivera.
D'accord.
Peut-être en hiver, c'est compliqué aussi.
Et en hiver, il y a moins de soleil. Tout le monde a moins de soleil en hiver. Donc, on suit les cycles des saisons aussi. Hein.
D'accord.
C'est pour ça que notre réflexion dans la session, c'est de dire, l'idée, c'est qu'il y ait, pour permettre à tous ceux qui se bénéficient d'avoir une vraie baisse de leur facture, 25% par exemple, c'est un peu l'objectif qu'on a, c'est 4 producteurs, 1 consommateur.
D'accord. En général, quand on a une installation photovoltaïque, le surplus sert à financer l'amortissement du matériel.
Oui, tout à fait. Ceux qui peuvent vendre, oui.
Voilà. Quand on vend à EDF, quand l'EDF rachète l'électricité ou d'autres opérateurs, là ici, vous faites un don. Est-ce que ce don est déductible non, est-ce que ce don donne droit à des abattements fiscaux?
Encore une très bonne question.
Je vous en prie. Revenez à Radiola, on a toujours des très bonnes questions.
Oui, donc déjà, il y a deux cas de figure. Il y a le cas de figure où la personne a fait installer par un électricien et une entreprise compétente et bénéficie d'emblée de ce qu'on appelle la prime, qui s'élève environ à 1 200 € selon les kilowatts produits, mais en moyenne, c'est 1 200 €, une prime. Et ensuite, peut bénéficier du rachat, mais qui est aussi une prime, hein, du rachat de ces kilowatts supplémentaires entre 10 et 13 centimes le kilowatt. On ne se fait pas des fortunes avec ça. Alors c'est vrai, dans un calcul d'amortissement, effectivement, ça peut compter. Mais c'est quand même marginal. De mon point de vue, c'est marginal. Après, on n'est pas obligé de tout donner dans ce cas-là. Hein, dans la structure juridique que nous avons définie, on peut donner par exemple 10% de son surplus. Hein, et les 90% seront vendus. D'accord. Ça, c'est le premier cas de figure. Et si dans ces 10%, tout n'a pas été consommé dans le bilan global, ça revient aussi dans ce pot-là. Donc, c'est pas mal. Dans mon cas, moi, je ne peux pas revendre puisque j'ai installé moi-même. Donc, je ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. J'ai fait une réduction substantielle de mes factures en installant moi-même. Je donne.
D'accord.
Voilà. Hein, je donne. Et ça me fait du bien de donner. D'accord. Donc voilà, donc c'est un peu ça. Après la déduction fiscale, oui, oui, absolument. À partir du moment où on peut obtenir via, par exemple, l'association, dans mon cas, ça serait l'association Passerelle, qui dit, bon voilà, j'ai reçu sous forme de don tel volume d'énergie valorisé sur ma facture à telle hauteur. Ça
comme,
rentre dans le cadre.
Comme un
voilà.
don classique.
Mais il faut avoir cette démarche de demander un don. Pour l'instant, voilà, ça existe. Dans toutes les AMEP de France, les 15, ça n'a pas été encore mis en place. pourquoi il y a un peu, la plupart sont dans une logique de don, c'est de dire bon, on donne, c'est pas pour avoir une réduction fiscale, mais on peut l'entendre, nous l'entendons. Et aujourd'hui, c'est dans les statuts, c'est possible, oui. C'est tout à fait possible, et c'est très incitatoire pour des gens qui hésitent. On leur dit, ça peut marcher, oui, aussi comme
des,
ça.
Des gens qui font l'effort d'installer et puis qui n'ont pas des revenus,
ils ont un retour. Ils ont un retour. Oui, mais disons, l'idée, c'est voilà quoi, ça fonctionne, ça existe, on peut en bénéficier.
D'accord. Donc, si je comprends bien, à la MEP de Drôme Provençal, vous avez encore de la place, vous avez encore des toits à accueillir. Qu'est-ce que vous diriez à des personnes qui se entre pas tout à fait décidées, qui trouvent votre opération intéressante, décider à venir?
Ok. Alors déjà, il faut savoir que là, la MAP actuelle fonctionne avec deux producteurs et un consommateur. Nous avons fait une réunion publique le 6 avril. Et à l'issue de cette réunion publique, quatre autres producteurs se sont déclarés. Et je vous ai parlé d'Autonil, ce n'est pas un hasard, parce qu'on a un producteur Autonil qui veut faire partie de l'association. On a aussi un autre producteur sur Diolfi, d'autres producteurs sur Pouet-Laval qui se sont déclarés, voulant faire partie de notre structure. Donc, ils ont été... Leur caractéristique de producteur a été envoyée à Enedis. Et nous avons aussi deux autres consommateurs qui sont dans la phase de rentrer dans l'association. Association Espoir, l'autre association qui agit sur le terrain de la solidarité, localement. Et l'association Femmes à l'abri, qui est basée sur Diolfi. Donc voilà. Donc, par contre, c'est quatre autres producteurs et deux autres consommateurs. Pour l'instant, c'est dans les tuyaux d'Enedis. Et voilà, ça fait 3 mois que c'est dans les tuyaux d'Enedis.
Ah, mais vous avez dit que ça, c'est le temps qu'il faut.
Voilà, alors on va dire juillet-août, je considère que c'est une période blanche. Et l'automne, on va aller rencontrer directement Enedis, parce que tout se passe par l'anonymat des plateformes Internet. D'accord. Donc voilà.
Comment on rentre en contact avec vous?
Alors, pour entrer en contact avec le réseau, déjà, je pense que c'est la bonne porte d'entrée pour répondre à la question que vous posiez, c'est comment on peut se convaincre d'adhérer. Donc, sur ce site, il y a toute une explication et surtout, on anime tous les mois une webconférence. La prochaine, c'est le 26 août. D'accord? Notez le 26 août. Et donc, c'est amep.co, www.amep.co. Et vous aurez aussi toute l'historique, des interviews, peut-être qu'on mettra celle de Radiola en ligne, etc., etc. Mais il y a les autres interviews, les autres expériences menées.
Oui, on en a, j'en ai vu quelques-unes et écouté quelques-unes.
Voilà, je pense que c'est la bonne porte d'entrée. Et ensuite, il y a un système de contact. Et selon la région, on est basculé vers tous les référents.
D'accord, très bien. Et Passerelle, les coordonnées de Passerelle?
Alors, les coordonnées de Passerelle, le site, c'est Passerelle au pluriel, asso, tout attaché, point. FR. Non, c'est pas ça. Point. Je ne sais plus. Qu'est-ce que c'est?
Alors,
tu l'as noté tout à l'heure, non?
Oui, tout à l'heure. Je l'ai noté. C'était point FR.
J'y vais pas tous les jours.
Passerelle avec un S. Asso. A2SO. Point FR.
Donc j'étais bon.
Ça c'était le site. De toute façon, on peut se retrouver toutes ces coordonnées sur le site de Radiola. On mettra une petite fiche avec les coordonnées. Merci messieurs d'avoir répondu à l'invitation.
Eh bien, merci à vous.
De Radiola. Merci à Marin d'avoir assuré la partie technique de cette émission. Retrouvez toutes ces productions sur radiola.media. À très bientôt pour une autre émission sur notre radio préférée. Salut, on termine avec Cléa Vincent, Électricité.
L'amplitude maximale de la forme d'une onde sinusoïdale, altérer le signal pour atteindre le point optimal. Nos rapports augmentent la fréquence, déjà tombée dans le piège de l'accoutumance, traversée de tensions.
Je ne pourrai pas, mais sans te brancher, me connecter, en prendre des gigas.
l'amour, charger la dynamo, rester dans le tempo.
Radiola, producteur local d'ondes de qualité.